Dutrisac. Des propos cohérents.
Des opinions différentes. Vous écoutez
Dutrisac.
OK, on va essayer de faire du sens de tout ça, là, même si c'est un anglicisme, de comprendre ce qui se passe. Là, des détenus qui sont vaccinés avant les agents des services correctionnels, avant les infirmières, avant les médecins. Des opérations, une opération de changement de sexe pour une meurtrière en pleine pandémie, payée par les contribuables. Qui prend ces décisions-là? Dans quel sens ça s'en va? Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu est avec nous. Sénateur Boisvenu, bonjour.
Trisac, bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce midi.
Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Commençons par ce qu'on apprend aujourd'hui dans le journal. Là, cette meurtrière qui a commis un meurtre alors qu'il était un homme en 97, qui a essayé de s'échapper en 2013, puis aujourd'hui, on lui paye un changement de sexe en pleine pandémie avec une dizaine d'agents de police du SWAT autour d'elle pour pas qu'elle s'évade. Qui prend ces décisions-là, sénateur Boisvenu?
Écoutez, depuis 2015, où il y avait eu quand même un certain ménage qui avait été fait entre ce qui était des privilèges à l'époque et ce qui était un droit. Un droit, c'est ce qu'on donne aux détenus d'être bien logés, d'être bien nourris, d'avoir le droit à des programmes de réhabilitation. Lorsqu'on parle de privilèges, on parle de la roulotte en arrière, on parle de la télévision dans la cellule, on parle des visites d'amis, on parle de changement de sexe, on vient de le voir. On parle d'avoir des services de santé souvent meilleurs que vous retrouvez dans le public. Ce qui était, dans le fond, à l'époque des privilèges, me semble aujourd'hui, avec le gouvernement libéral actuel, est devenu des droits. Et c'est là toute la confusion qu'on a dans le public de dire, coudon, est-ce que ces gens-là qui ont commis des crimes, des assassinats, on l'a vu dans le cas que vous venez mentionner, est-ce que ça veut dire, lorsqu'ils sont incarcérés, que ces gens-là gagnent en droit, gagnent des droits que le citoyen normal ne peut pas avoir? Moi, quand je regarde, M. Dutrisac, le nombre de chirurgies qui sont déplacées ou annulées au Québec depuis le début de la pandémie, ça me dit que ces gens-là vivent sur une autre planète.
On parle de 140 000 Québécois là, qui attendent une opération entre une chirurgie, 140 000. Et pendant ce temps-là, on voit quelqu'un qui a commis un meurtre passer devant la foule, devant la file.
Mais lorsqu'on voit dans le même journal, le Journal de Montréal, pour ne pas le nommer, un article d'une dame qui a craint pour sa vie parce que l'opération qu'elle doit avoir, l'intervention qu'elle doit avoir, l'intervention médicale est reportée de semaine en semaine, de mois en mois, et qu'à côté, on voit que le système carcéral, avec 10 gardiens, escorte un assassin vers une clinique privée, hein, payée par les taxes des citoyens pour faire changer de sexe, alors que le personnel médical est en burn-out et qu'on a un problème au niveau de traitement des gens qui attendent pour un cancer, qui attendent pour une hanche. Moi, je me dis, comment ces gens-là ne peuvent pas vivre la même réalité depuis le mois de février dernier, alors qu'on apprend que les criminels vont être vaccinés avant les gardiens, que les criminels peuvent changer de nom dans les pénitenciers? Moi, je me dis, il y a une réalité que ces gens-là ne connaissent pas.
Attendez, les criminels peuvent changer de nom dans les pénitenciers?
Mais vous vous souvenez du cas du meurtrier de Mme Poisson, la petite Poisson,
oui,
en Montérégie, je pense que c'était en 2006, ma mémoire est bonne. Cet individu-là a changé de nom lorsqu'il était incarcéré. On se souvient du cas Perron à Québec, en 2018, je pense, qui travaillait dans une industrie là, qui sert des déjeuners, qui avait changé de nom pour Perron pour l'évêque pour faire en sorte que l'employeur ne sache pas qu'il y avait un dossier criminel.
Ah, oui.
Oui, ces gens-là, veut dire, sont assistés pour avoir ce privilège-là, qui est tout à fait aberrant quand on sait que les policiers vont avoir la difficulté à retracer ces gens-là parce qu'ils n'ont plus le nom dans la banque des criminels.
Dites-moi une chose, M. Boisvenu, le service correctionnel du Canada, là, qui ne commande pas, qui ne commente à peu près jamais là, ces pratiques, pouvez-vous les convoquer au Sénat? Pouvez-vous leur demander une espèce de reddition de compte de décisions assez débiles comme on voit présentement?
Vous posez une bonne question, M. Dutrisac. Moi, je suis vice-président du comité sur la sécurité nationale. Et je vais déposer au comité prochainement, je pense dans les jours qui viennent, une demande d'étude. Qu'est-ce qui se passe, entre autres, à la Commission de libération conditionnelle, par ricochet, qu'est-ce qui se passe au système carcéral canadien. Ce dossier-là qui est dans les médias ce matin, amène de l'eau au moulin. Faut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015 pour avoir, au niveau de la haute direction et du système carcéral et de la commission de libération conditionnelle, des gens qui portent autant attention aux criminels alors que la population en arrache. Et je vous rappellerai, M. Dutrisac, que depuis le mois de février 2020, il y a 2400 criminels qui ont été libérés volontairement par le système carcéral et la commission, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 35% des cellules qui sont inoccupées. Et là, on dit, mais il faut vacciner rapidement les criminels par crainte de pandémie dans les pénitenciers, alors que les 5 premiers pénitenciers qui ont reçu les vaccins, il n'y a aucun cas de contamination. Donc, c'est des gens qui vivent sur une autre planète, qui font fi, à mon avis, de la difficulté que les citoyens vivent, et il faut effectivement les inviter à un comité et leur poser sérieusement des questions. Où s'en va ce système-là aujourd'hui?
OK, je veux juste comprendre, M. Boisvenu, là. Vous venez de me dire, dans 5 pénitenciers là, où les vaccins ont été administrés, il n'y avait aucun cas de COVID?
Oui, c'est le cas de Drummondville, qui était un des premiers pénitentiaires à recevoir des vaccins, et on dénote aucun cas de contamination.
Et pendant ce temps-là, moi, je viens de parler à un médecin qui traite au CHUM des malades atteints de la COVID qui n'a pas été vacciné.
Oui, et moi, j'ai critiqué cette décision-là, et les sénatrices, certains sénateurs indépendants, m'ont juste dit, vous n'êtes pas scientifique, vous n'avez pas à vous prononcer là-dessus.
Ah bon.
J'ai dit, ça ne relève même pas de la science, ça relève du bon sens.
Oui, du droit et du privilège aussi. Dites-moi une chose, selon vous, hein, M. Boisvenu, je vous sors de votre élément un peu, là, mais le Centre métropolitain de chirurgie, là, c'est quoi leur responsabilité sociale d'accepter de faire du cash au lieu d'aider le système de santé publique, là, d'accepter ce genre d'opération-là, au lieu de mettre l'épaule à la roue quand on voit que les hôpitaux publics débordent? Pourquoi ces médecins-là du Centre métropolitain de chirurgie ne sont pas appelés à contribuer de façon un peu plus positive pour la société?
Posez une très bonne question. Et moi, je pense d'ailleurs, si ma mémoire ne fait pas défaut, là, je pense d'ailleurs que M. Legault avait dit dans un point de presse qu'on ferait appel aux ressources privées pour supporter le réseau public qui actuellement peine à répondre aux besoins, même qu'il a pris un retard énorme qui va, à mon avis, coûter la vie à des gens. Moi, je pense que les réseaux privés doivent absolument, dans un cas comme on vit actuellement, supporter le réseau public pour faire en sorte. Parce que ces gens-là, faut pas oublier, quand vous allez au privé, il y a un remboursement qui est fait dans certaines circonstances par le gouvernement du Québec. Il y a un financement qui vient des payeurs de taxes, là. Donc, moi, je pense qu'une des missions du réseau privé, c'est de donner des services rapides, mais aussi c'est de supporter le réseau public quand le réseau public est débordé et de voir, je veux dire, qu'on dirige des criminels qui ne sont pas des opérations urgentes. Que vous changez de sexe aujourd'hui, que vous le faites dans un an, votre situation ne changera pas, vous allez rester incarcéré. Donc, de faire en sorte que ces choses-là soient reportées, moi, je pense qu'on devrait intervenir. M. Legault devrait être très, très directif là-dessus en disant aux cliniques privées, vous nous supportez là-dedans.
Comment ça marche, M. Boisvenu, là, quand Jamie Boulachanis, 47 ans, s'était évadé en 2013, on l'a dit, elle avait des lames de métal dans ses bas, je pense. Qu'est-ce qu'on leur doit à ces criminels-là? Comment ça fonctionne, là, quand ils font des demandes comme ça, là, de changement de sexe? Là, nous, est-ce qu'on est tenu de toujours dire oui à toutes ces demandes-là?
Vous savez, M. Dutrisac, il y a deux ombudsmen dans le système de justice. Il y a l'ombudsman des victimes de criminels et l'ombudsman des criminels, ce qu'on appelle l'inspecteur carcéral. Et lui, à chaque année, il dépose un rapport à la Chambre des communes et non au ministre de la Sécurité publique parce que lui, il relève de la Chambre des communes. Et son rapport à chaque année a à peu près 70 recommandations et les services de santé, aussi bien physiques que psychiatriques, sont toujours au cœur de son rapport. Donc lui, il a le pouvoir de mettre de la pression sur le système pour faire en sorte que les services de santé dans les pénitenciers, aujourd'hui, au moment où je vous parle, ont dépassé en qualité les services qu'on observe dans les hôpitaux publics. Si vous allez dans un hôpital, un exemple, vous pouvez attendre 10, 12, 14 heures. Si vous êtes dans un pénitencier, vous n'attendrez jamais après les services médicaux. Les services médicaux sont là immédiatement pour vous servir. On n'a pas ce pouvoir-là au niveau du public, nous, pour mettre de la pression sur le service de santé pour que les services soient améliorés. Eux, ils l'ont dans le système carcéral, et ce qui fait aujourd'hui que une opération comme vous avez été mentionné dans les médias devient pour le système carcéral une priorité à répondre aux besoins du criminel de changer de sexe.
Dernière affaire avant qu'on se quitte, M. Boisvenu, là, je disais que les agents correctionnels, les gardiens de prison, sont même pas considérés comme prioritaires. On l'a dit, vous l'avez dit au ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, qui a dit non, le gouvernement a décidé de vacciner les détenus dès maintenant, puis c'est demain que ça va se passer. Bill Blair, là, sauf erreur, c'est pas un ancien chef de police de Toronto?
Oui, et même la réponse de M. Blair ne correspond pas à la priorité, les priorités qui ont été définies par le Comité national de la santé publique, celui qui s'occupe de donner les priorités au niveau de la vaccination. C'est d'abord le personnel de première ligne, on parle ici des infirmières, des médecins, des gardiens de prison, et les prisonniers viennent comme en queue de liste, alors que M. Blair a décidé, lui, qu'il mettait ça en tête de liste. C'est tout à fait aberrant.
Mais un ancien policier fait passer les agents correctionnels après les prisonniers.
Oui, et je suis convaincu, pour bien connaître le syndicat des agents correctionnels canadiens, ils doivent pas être fiers de cette nouvelle-là ce matin. Et je sais que le président a donné des entrevues la semaine dernière en disant « ça n'a pas de sens que les gens qu'on doit surveiller, qui peuvent être effectivement des vecteurs, puis qui peuvent, eux, par leur comportement souvent agressif envers les gardiens, contaminer les gardiens. Il dit, on trouve inconcevable qu'on va d'abord vacciner les gens qu'on doit surveiller plutôt que vacciner les gardiens qui, eux, peuvent tomber malades et peuvent mettre la sécurité de ces gens-là en danger.
Hey, avant qu'on se quitte, j'ai une question qui me vient en tête, là, M. Boisvenu. Vous avez vu les émissions de fin d'année, là? Vous avez vu Justin Trudeau se balader d'une émission à l'autre, de répondre à une question à l'autre?
Oui.
Comment vous avez réagi quand vous voyez qu'on lui demande jamais de rendre de compte sur ces scandales-là, sur ces décisions débiles-là?
Monsieur Dutrisac, Trudeau avait promis avant Noël une vague de vaccination là, très importante au printemps. Ce matin, il nous promet pour le mois de mars 2 millions de vaccins au Canada. 20 millions de vaccins.
20 millions.
Écoutez, c'est des promesses qui passent souvent dans le vent, mais qui donne bonne presse au premier ministre.
Non, mais je vous parle des médias, là.
On va pas challenger.
Trouvez-vous que les médias font leur job, là? Quand tu vois Justin Trudeau aller à Infoman, là, Jean-René Dufort, je l'aime bien, là, mais là, Jean-René est assis devant lui, il parle pas de We Charity, il parle pas des scandales, il parle pas de Bill Morneau, il parle de rien, il fait faire des beaux yeux devant son masque. Vous trouvez pas que les médias, des fois, font pas leur job quand ils ont le premier ministre du Canada devant eux?
Quand on regarde toutes les erreurs que Trudeau a payées, a fait, passer aux 1 000 donnés aux voyageurs qui reviennent au pays, on peut en énumérer une liste, un chapelet. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, les médias sont un peu complaisants par rapport à Trudeau.
Je trouve que oui aussi. Pierre-Hugues Boisvenu, pis c'est pas l'idée de coucher avec le Parti conservateur ou avec le NPD ou le Parti libéral ou le Bloc québécois. L'idée, c'est de faire notre job, de poser les questions. Puis quand t'as le premier ministre, des fois, il faut arrêter de faire des coin-coin, il faut demander des comptes.
Mais quand c'est le premier ministre qui a été trois fois inspecté par le conseil à l'éthique, qui a fait des erreurs monumentales depuis durant la pandémie, dans le fond, il faisait une erreur, il la corrigeait, puis ça passait dans le beurre. Écoutez, c'est une pandémie où on a vu un premier ministre improviser chaque semaine, à chaque mois, et jamais on a demandé des explications sur ces erreurs-là. C'est comme si on gonde un enfant, puis c'est terminé.
Mais ce que vous dites, c'est bon, parce que on en demande plus au docteur Arruda qu'on en demande à la docteure Tam, qui justifie jamais ses décisions parce qu'elle parle pas français. On l'a demandé en entrevue, puis on refusait parce qu'elle parle pas français.
Mais pensez seulement à la vaccination. Le Québec, c'est la province actuellement où le taux de vaccination est le plus élevé par rapport aux vaccins qu'ils reçoivent du fédéral. C'est 92 % des vaccins reçus ont été administrés au Québec. L'Ontario, c'est 82 %. Monsieur Legault avait raison de dire à Trudeau, mêle-toi de tes affaires, envoie-nous des vaccins, on va faire notre job. Le Québec, à ce niveau-là, il fait sa job. Que Trudeau ait blâmé le Québec par rapport à ça, ça donne un peu comment Trudeau veut dire peut s'en sortir facilement.
On se laisse là-dessus. Pierre-Hugues Boisvenu, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée, bonne année aussi.
Oui, bonne année à vous, puis bonne année à tous les gens qui nous ont écoutés.
C'est bon, merci.